Une polémique, vous savez ce que c'est, une polémique, il y en a tout le temps, depuis longtemps, mais en ce moment, en particulier, sur à peu près tous les sujets, du foot à la politique, en passant par l'art contemporain. Alors vous connaissez la chanson de la polémique, l'une chasse l'autre, avant qu'une nouvelle ne vienne effacer celle dont on pensait qu'elle allait durer. Prenez n'importe quel exemple aujourd'hui, c'est flagrant, ça dure si peu de temps, au point qu'on s'interroge parfois sur la fonction de la polémique. Si derrière le scandale, l'outrance, l'innommable, il n'y a pas tout simplement un savant système de communication, où l'idée, pour celui ou celle qui s'insurge, c'est tout simplement de se mettre en avant, même très peu de temps. Mais une polémique, en vrai, qu'est-ce que c'est? C'est pas une affaire montée au nom de toute pièce à l'origine. Une polémique, c'est un débat. Et un débat par écrit. Alors c'est vrai qu'il y a de la passion, de la violence, voire de la hargne dans toute polémique. C'est pas pour rien qu'en grec ancien, ça voulait dire disposer à la guerre. Mais il y a quand même toujours un échange. Ce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, à l'heure où les polémiques fleurissent sur les plateaux de télé, sans même qu'on écoute le point de vue de l'adversaire, sans prendre le temps de construire ses arguments, sans le filtre nécessaire de l'écrit. C'est ce que je dis, moi, Harakiri.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Que dit mon invité d'aujourd'hui de l'art, de la polémique? Il est artiste et il vous est sûrement arrivé de frissonner à la vue de ces néons sous la pyramide du Louvre, sur le fronton de l'Odéon, le long du pont d'Issy-les-Moulineaux, autour d'un château d'eau à Montreuil ou devant ses installations dans les plus grandes galeries du monde. Le 30 décembre dernier, il prenait d'assaut l'Opéra de Paris avec ses Saturnales, deux œuvres in situ et temporaires destinées à célébrer les 350 ans de l'institution. Bonjour Claude Lévesque.
Et bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là ce matin. Il paraîtrait que vous nous ayez créé une polémique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Bon, ça c'est des polémiques habituelles, on va dire des anciens contre les modernes. Moi, je sens ça comme ça. Après, c'est vrai que si les gens n'ont pas vraiment vécu l'œuvre de l'Opéra Garnier, d'intervenir comme ça dans un lieu sacré comme ça du patrimoine est toujours un peu complexe. Et puis c'est vrai qu'il faut vraiment faire le parcours visuellement, physiquement, à partir de la rotonde des abonnés jusqu'à l'escalier en passant par la Pitié pour comprendre la présence de ces deux pneus qui font polémique lorsque les gens voient dans la presse avec le relais de l'AFP.
Ah bah les pneus de la discorde,
voilà,
titre Figaro.
On voit que ça, alors que c'est pas que ça. Et que c'est un élément visuel qui appartient à cette célébration des 350 ans, les Saturnales, avec cette question du couronnement, de l'anneau, de la danse, et puis
dont on va parler,
la relation à l'architecture.
Évidemment, mais qu'est-ce que c'est pour vous, en tant qu'artiste, une polémique? Qu'est-ce que ça représente?
Une polémique, c'est nécessaire, ça c'est un débat. Donc je pense aujourd'hui que les gens ont besoin de débattre, on le sent dans le mouvement social. Évidemment, hormis l'essentiel de ce mouvement par rapport aux injustices horribles et tout ça, les gens ont besoin de débat, ont besoin de communiquer entre eux, ont besoin d'être écoutés. Ça fait partie du débat et je pense que la culture, elle est au cœur du débat. Bien sûr que c'est normal qu'il y ait une polémique, c'est normal que des gens soient pas d'accord sur des choses, donc questionnent et puis peut-être à un moment donné peuvent avoir la possibilité de s'imprégner, d'aller contre des réactions parfois un peu hâtives.
En tout cas, c'est intéressant, comme la polémique est devenue presque indissociable de l'art contemporain, et notamment, effectivement, lorsqu'il investit des lieux de patrimoine. Comment vous l'expliquez, ça?
Parce que les lieux de patrimoine, souvent, sont les gens qui aiment les vieilles pierres, tout ça, ont vraiment cette espèce de besoin de sécurité du passé, et par crainte, justement, du présent et de l'avenir. Il y a souvent cet aspect-là, et donc, qui fait qu'on s'enferme sur ce passé. Alors que l'art contemporain se nourrit, prend des références dans tout l'art du passé, dans toutes les époques, naturellement.
Alors effectivement, il y a dans cette installation à l'Opéra Garnier ces deux sculptures géantes en forme de pneus que vous avez installées sur la rampe de l'escalier. Pourquoi un pneu, après tout? Il existe d'autres objets circulaires, peut-être un peu plus discrets.
Oui, d'autres objets. Là, c'est vraiment l'objet le plus trivial qui soit. Mais aussi, c'est l'objet qui fait partie du mouvement, du roulement.
Oui.
Et pour moi, c'est important qu'il y ait à la fois le diadème sur le toit de l'Opéra Bastille, qui est le carrousel comme ça dans l'espace de la rotonde des abonnés, qu'on soit toujours dans cette idée du mouvement, du tournoiement, un peu comme l'étoile de l'Opéra qui va tourner sur elle-même.
Mais ce pneu, Claude Lévesque, on l'a déjà trouvé dans votre travail. Il n'est pas si surprenant que cela, je pense à cette œuvre qui s'appelait Cérémonie. Et ce n'est pas non plus la première fois que vous détournez un objet banal, quotidien, voire usé pour en faire une œuvre d'art. Il s'agisse de seaux métalliques, d'arrosoirs, de chaises en formica, de bassins d'aisance ou même de vieilles portières de voitures. Au fond, que faut-il pour qu'un objet
vous intéresse ?
Ben, l'objet, il faut qu'il soit immédiatement identifiable. Donc, il appartient effectivement à une sorte d'archéologie du temps. Souvent, quand j'utilise les objets, ce sont des objets de ma génération, qu'on déterre, qu'on trouve. Mon filleul, Romaric Etienne, qui écrit pour les Néons, a aussi énormément cherché dans la Nièvre, l'endroit où je suis né, à déterrer comme ça des objets qui avaient été abandonnés.
Voilà, c'est ça.
Ces objets, ils marquent aussi le quotidien, quoi. Ils sont vraiment de nature à être dans l'utilisation. Donc, ils appartiennent au passé, soit au présent.
Et ce sont des objets, j'ai l'impression, hein, dites-moi si je me trompe, souvent mis au rebut. Vous nous dites quelque chose par là de notre société de consommation. C'est comme s'il y avait trop d'objets.
Oui, et puis souvent ces objets sont marqués, sont érodés, enfin sont à la fois abandonnés, à la fois aussi en situation de destruction, quoi. Donc, bien sûr, enfin la question de la consommation, tout ça n'est pas vraiment primordial dans mon langage. Hein. C'est plus la question du temps, la marque du temps comme ça qui use les choses, qui use la vie aussi. Et voilà. Et après, c'est une sorte de voyage au travers de quelque chose d'assez autobiographique, comme ça, de ma mémoire, puis d'une mémoire collective aussi.
Si on remonte le temps, précisément, Claude, quel est le premier objet dans lequel vous ayez vu le potentiel d'une œuvre?
Tiens. Ah, moi, j'ai vu beaucoup de choses ont été très déclencheurs de mon questionnement à une époque où, au début, avant d'entrer aux Beaux-Arts, où je connaissais pas grand-chose. Et c'est vrai, ce qui m'a vraiment marqué, sans vraiment comprendre, c'était Joseph Beuys, Christian Boltanski, Gina Pan, enfin des artistes qui avaient un langage qui me troublait, mais qui était toujours lié à la vie, toujours lié au quotidien et à la mémoire. Et j'avais pas très bien compris qu'on puisse utiliser comme ça, d'une manière aussi triviale, des objets, des éléments, avec cette espèce de magie du langage, comment on passe de quelque chose d'ultra banal à une histoire plutôt profonde, plutôt tragique, surtout concernant Boltanski, qui utilisait des objets qui avaient appartenu à des personnes qui étaient disparues.
S'agit-il, Claude Lévesque, de rendre beau également? Que faites-vous du beau?
Le beau, ça fait, c'est une donnée, mais enfin le beau, c'est pas restrictif. Parfois, les choses très laides, très repoussantes peuvent contenir une certaine beauté, quoi. Voilà. Enfin, à la fois, moi, je joue entre le répulsif et la séduction.
Alors, dans quelle mesure l'art contemporain, pour vous, est-il ou n'est-il pas le lieu de l'expression de la beauté?
Il peut l'être. Tout dépend du langage de chacun là-dessus. Il est l'expression de quelque chose, d'une préoccupation d'aujourd'hui. Une préoccupation formelle, une préoccupation liée à l'actualité, à l'environnement, à la vie de tous les jours, et puis voilà, enfin il peut être réactif et aussi il doit être aussi imprévisible, parfois incompréhensible, abscon.
C'est peut-être là où se niche la beauté justement.
Bah oui, c'est ça. C'est moi je trouve que c'est important. Moi-même, quand je comprends les choses très rapidement, c'est pas bon signe. C'est facile et qu'on oublie le lendemain. Parfois, quand on s'interroge, même on réagit négativement, si on va un petit peu plus loin, si on creuse, d'un seul coup, on aura une réaction différente. Et on va se passionner comme ça. Bon, il faut un peu chercher, mais il faut avoir la possibilité de ça. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, l'enjeu de la culture, il est primordial pour permettre que ce langage-là puisse être vraiment échangé par le plus grand nombre. Ça, je le crois fermement.
Qu'est-ce que vous trouvez beau, vous, Claude Lévesque?
Après, je trouve beau, ça peut être vraiment une ambiance de rue, ça peut être un déchet que le vent transporte sur le trottoir. C'est des choses auxquelles je m'attends pas, mais qui vont d'un seul coup me séduire. Enfin ça, et qui pourront repousser complètement quelqu'un d'autre.
Une phrase.
Après, j'aime les paysages, j'aime la nature, j'aime ce qui la poésie, j'aime des contenus qui me font voyager, rêver, quoi.
Brigitte Fontaine, par exemple.
Oui, d'ailleurs, parce que je trouve, enfin, dans la chanson d'Uralex, le titre est drôle, quand elle dit très bientôt, musique, amour, poésie seront interdits par tous ces maudits. Et ça, je trouve, c'est vraiment un point important de ce qu'est la culture aujourd'hui et de ce qu'elle subit aussi, de la censure, de l'autocensure. Enfin, aujourd'hui, il y a des choses qui, il y a un enjeu de société, tout ça, qui est important, dangereux et qui peut aussi ouvrir sur une renaissance de beaucoup de choses. La propriété, c'est le vol.
folle. La sobriété, c'est le trac. Ne pas fumer peut rendre folle. Mais garde, ça y est, des attaques. Bientôt musique, amour, poésie seront interdits par tous ces maudits.
L'artiste Claude Lévesque, invité de Boomerang ce matin pour ses Saturnales, deux installations choisies pour célébrer un double anniversaire, les 350 ans de l'Opéra de Paris et les 30 ans de l'inauguration de l'Opéra Bastille, au sommet duquel vous avez érigé, Claude, ce qui ressemble à un diadème géant constitué de 16 mâts lumineux. Ces mâts, vous dites qu'ils vous ont été inspirés par les jambes des danseuses du lac des Cygnes. Quelle source d'inspiration est-ce que c'est, le corps, pour vous?
Le corps, c'est la sensualité, c'est quelque chose de troublant, qui soit proportionné ou pas. Enfin bon, après, je pense que c'est pour ça que je me suis intéressé beaucoup aux artistes qui avaient comme ce sujet le corps. Je pense à Journia, Gina Pal, Gilbert and George et tout ça. Donc c'est bon, la danse m'intéresse énormément sur cette question de du corporel, du mouvement, de l'espace, voilà. Et moi, bon, j'adore le lac des Cygnes, ça c'est vraiment un amour de jeunesse. Voilà, c'est assez kitsch et tout ça. Bon,
c'est un tube.
C'est un tube dans la danse. Mon Nureyev dans le lac des Cygnes, c'est quand même prodigieux, tout ça. Bon.
Mais si je vous pose la question, c'est parce que j'ai l'impression que dans votre travail et notamment dans vos installations, si le corps est invisible, il n'est pas absent pour autant. Il existe presque toujours sous une forme fantomatique. Je pense à certaines images de votre film Le Lac Perdu, que vous aviez réalisé il y a 2 ans pour la 3e scène de l'Opéra de Paris, où on voit notamment des tutus en suspension dans l'air. En réalité, que faites-vous des corps, Claude Lévesque?
Les corps, ils sont à la fois présents, ils sont aussi abandonnés par la vie, par le temps qui passe, et puis leur disparition, enfin l'état d'apparition et de disparition. Donc enfin le petit film Lac Perdu, qui était vraiment une sorte de comme ça de promenade dans l'opéra, dans ce que ça révèle. Bon, ça c'est un grand sujet, hein, l'opéra Garnier, sur son histoire, sur sa légende et tout ça. Mais la question, c'était justement ce corps abandonné, lorsqu'il reste comme ça, une sorte de mouvement dans l'atelier de fabrication des costumes et des accessoires qui, à l'Opéra Garnier, me passionne complètement. Quoi.
J'ai l'impression que vous ne cessez de jouer à la fois, effectivement, avec l'absent, la structure, on le disait tout à l'heure, mais aussi avec la lumière. Comme en témoigne ces Saturnales, et pas avec n'importe quelle lumière, avec celle des néons, souvent, que vous utilisez souvent pour vos sculptures. Quelle matière ou quel matériau est-ce que c'est la lumière du néon pour vous?
C'est soit la lumière du néon ou toute autre source de lumière, c'est quelque chose qui métamorphose, c'est quelque chose pour ça qu'on l'utilise de manière essentielle dans le cinéma, dans le théâtre. C'est quelque chose qui modifie, qui transforme les choses. Donc moi je le vois aussi là-dedans, aussi bien dans des formes, dans des ambiances décrites par les dispositifs lumineux, que dans les phrases néons. À chaque fois, une phrase néon, souvent comme j'utilise des lieux communs du langage, des banalités de ce qu'on dit tous les jours, en néon, d'un seul coup, la luminescence va créer quelque chose, un impact qui pourra être perçu différemment par toutes sortes de personnes, alors que ça fait partie de notre langage quotidien.
Et souvent, j'ai l'impression que la lumière du néon, elle est associée à quelque chose de tapageur. Je pense aux enseignes des magasins, des boutiques, des clubs. Et vous en faites une lumière très douce.
Et moi, j'aime la lumière des boutiques, des clubs. Et justement, je la détourne. C'est-à-dire que d'un seul coup, la forme de ces néons devient incertaine, fragile. Enfin, vraiment en situation comme ça de presque d'illisibilité par rapport à ce qui est dit, qui fait vraiment partie de notre langage quotidien.
Et d'inquiétante étrangeté, il y a quelque chose d'angoissant dans cette lumière. Après tout, c'est une lumière qui s'inscrit dans l'obscurité.
Puis dans la tête, quoi, qui reste dans la tête d'une certaine façon. Voilà, lorsqu'on est passé devant, comme toute enseigne lumineuse, quoi.
Vous avez peur du noir, vous?
Non, j'adore le noir. J'adore l'obscurité.
Alors, en fin de compte, comment elle est née, cette fascination pour la lumière?
Bah après, moi, depuis que je suis enfant, j'ai toujours été fasciné par la lumière, toujours, sur n'importe quelle enseigne, sur n'importe quelle ambiance lumineuse. Enfin, tout ce qui a trait à l'impact rétinien sur ces questions-là m'attire. C'est une attirance, quoi.
Je pensais que vous me diriez Paris.
Paris, oui. Enfin, oui,
c'est la ville lumière, après tout.
C'est la ville lumière, mais moi j'aime bien aussi les villes sombres.
Et je vous pose la question, parce que je sais que la découverte des lumières de Pigalle, ça a été un choc.
Oui, bien sûr. Oui, bon, ça on le raconte souvent. C'est vrai que quand j'étais gamin, mes parents, on se promenait dans Paris, tout ça. Et puis un jour, je me suis éclaté le nez sur le réverbère parce que j'étais complètement fasciné par les lumières environnantes.
Vivant la lune, Claude.
Voilà.
Ça représentait quoi Paris pour vous?
Quand j'étais enfant, c'est vrai que mes parents, on venait à Paris, de Nevers, on visitait beaucoup de musées. Ma mère était passionnée d'art, donc on visitait beaucoup, beaucoup de musées. Donc ça m'a aussi apporté des choses, plus que des monuments, plus que tout ce qui était la caricature un peu d'une grande ville comme celle-ci. Mais on faisait beaucoup le Louvre, les expositions au Grand Palais. Donc j'ai été immergé très petit dans l'art.
On va en reparler de Paris, mais aussi de Nevers, votre ville natale, de lumière aussi, et puis d'opéra, puisque vous y êtes installé juste après un titre de Jerry Goffin et Carole King pour le groupe The Chiffons, qui reprenait à sa manière un air d'opéra. Saurez-vous le retrouver? Ça s'appelait One Fine Day. C'était en 1963 et ça faisait choubidoubidou, wawa. Vous êtes sur France Inter avec l'artiste Claude Lévesque. Vous écoutez Boomang et il fait très très beau ce jeudi matin. Vous trouvez pas? Si.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
En fait, il a quelque chose de divin, c'est-à-dire qu'on l'imagine volontiers caracolé au sommet de l'Olympe, un marteau dans la main, une grappe de raisin dans l'autre, devisant aux côtés d'une Aphrodite méchée, s'amusant à dessiner dans les nuages d'étranges messages à l'adresse de mortels pour le moins intrigués. Il a la mine ronde et bonhomme, l'œil pétillant, assez joueur, la main robuste et créative, avec son écharpe rouge autour du cou et ce t-shirt noir sur lequel il est écrit « Je suis venu pour me cacher ». Ça tombe bien, Claude, on n'est pas filmé. L'artiste Claude Lévesque, invité de Boomerang pour parler de lumière, de création, d'art, mais aussi de territoire. Et on le disait, c'est à Paris, Claude, que vous avez vécu l'un de vos premiers chocs artistiques. En l'occurrence, c'était dans les années 70, lors d'une exposition de Christian Boltanski au Musée d'Art Moderne. Qu'est-ce que vous avez vu, précisément?
Là, j'ai vu des objets qui étaient étalés, comme ça, dans une vitrine, de manière très simple, comme témoignant de la disparition d'une vieille dame et d'un jeune homme. voilà, une sorte d'état des lieux, comme ça, de ce qu'avaient pu être leurs objets au moment, retrouvés chez eux, au moment où ils disparaissaient de la vie. Et ça m'a, j'ai pas compris pourquoi on disposait les choses, on les montrait comme ça. Moi, j'avais l'habitude de voir la peinture, la sculpture de manière assez traditionnelle. Et là, ça m'a fait vraiment un choc. Ça m'a fait, après, réfléchir sur beaucoup de choses, lire, vraiment explorer, voilà.
J'aime que vous disiez « j'ai pas compris ». Parce qu'en fait, la question que j'allais vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez compris ce jour-là de ce qu'était ou de ce que pouvait l'art, en réalité ?
Bah, c'est-à-dire que, au départ, je me suis pas trop posé de questions, parce que j'ai surtout été surpris de voir ça. En plus, ça m'intéressait, ça me faisait vraiment envie, donc, après, d'aller un peu plus loin, et puis de connaître à la fois l'artiste Christian Boltanski, de ce qu'il avait fait, puisqu'il avait déjà quand même un certain parcours à ce moment-là. Ça stimule une curiosité. Soit on laisse tomber, on se dit que bon, de toute façon, on comprend pas, c'est pas fait pour nous, enfin tout ça. Soit on a envie, de savoir pourquoi on montre des choses de cette manière-là, quoi. C'est parce que derrière, il y a effectivement la profondeur d'un langage, quelque chose, mais qui est pas habituel à l'œil.
Votre premier contact avec l'art, il s'est fait quand ? Il s'est produit quand ?
Bah, c'est par ma mère qui peignait, qui m'emmenait voir des expositions. Après, moi, j'aimais beaucoup Gustave Courbet, parce qu'elle était complètement folle de Gustave Courbet, de Corot.
Et quelle place on donnait à l'art, à Nevers ?
Il n'y avait pas... Elle était assez isolée, parce que le reste de la famille ou l'environnement comprenait pas vraiment. Ça les amusait, au meilleur des cas.
À quoi elle ressemblait cette ville de Nevers, qui est si centrale, hein, pour vous?
C'est une ville particulière, enfin qui est au bord de la Loire, déjà qui lui donne une physionomie assez incroyable. Moi, c'est une ville que j'aime, que je trouve vraiment cinématographique, enfin qui malheureusement a pas pu vraiment se développer parce que c'est des villes industrielles qui ont périclité depuis longtemps, d'ailleurs pas récemment. Donc c'est une ville un peu abandonnée, un peu en décrépitude, mais qui amène un côté très cinématographique. Donc il y a des quartiers qui sont préservés, des quartiers de mon enfance sont quasiment restés tels quels. Ça amène un côté pasolinien, on est un peu comme dans les premiers films néo-réalistes italiens. Enfin, il y a vraiment quelque chose, il y a une ambiance que, à la fois, ça me parle parce que c'est mes racines, c'est ma mémoire. Et ce côté de la ville qui aurait pu complètement changer, il y a des quartiers qui auraient pu complètement métamorphoser, on reconnaîtrait plus rien du tout. Mais aujourd'hui, ça reste assez comme c'était quand j'étais petit, quoi.
Cette ville que vous avez réinvestie dans le cadre d'un projet qui s'appelait Nevers, Let Love In.
Oui, c'est un livre qui me tient à cœur beaucoup, hein. C'est un livre, justement, là, au moment de la disparition de mes parents, j'ai eu besoin, comme ça, de remettre en question mon parcours, ma vision des choses, la vie que j'ai eue à Nevers et autour, quoi.
Il reste beaucoup question de ça. Aujourd'hui, Claude Lévesque, de cette éducation communiste, il faut le dire.
Ben, il reste un immense respect pour ça, pour mon grand-père qui a été déporté, pour mes parents qui ont résisté, qui ont milité. Il reste un très grand respect. Voilà, quelque chose qui ne me lâche pas, quoi. Donc je reste vraiment foncièrement de gauche.
Et qui est constitutif.
De vraie gauche.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Voilà, vous me tendez des perches, mais j'y vais. De vraie gauche, ça veut dire quoi ?
Bah parce que la gauche, j'y crois pas. La gauche aujourd'hui, elle est vraiment dans le merchandising, dans la démagogie, dans quelque chose qui est... Moi, j'ai du mal à faire confiance. C'est compliqué. Aujourd'hui, on le voit bien dans l'actualité, c'est compliqué d'avoir une appartenance comme ça, un peu réactive, de résistance, alors que tout est confus.
Ça voudrait dire quoi, Claude Lévesque, faire un art de gauche, de vraie gauche ?
Je crois pas à l'art qui aurait une étiquette politique. L'art doit être libre avant tout. C'est par sa liberté qu'il peut ouvrir au monde.
On se fait plaisir, là, tous les deux ?
Ouais.
Allez, on se fait plaisir.
On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, Oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin.
Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, là?
C'est Catherine Deneuve qui chante pour une installation que j'ai réalisée dans ma galerie chez Kamel Menour au printemps dernier, qui est Aube Bleue, où j'avais disposé un très grand néon, comme ça, une sorte de silhouette un peu fantomatique au milieu d'un espace vide, et avec Catherine Deneuve qui chante de manière très fragile cette chanson que j'adore de Françoise Hardy, Mon ami la rose.
Un nouveau pas de corps, mais le signe d'un corps, oui. Une voix.
Oui, 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 d'une voix. Bon, elle s'est prêtée au jeu de manière extraordinaire, sans même que je lui donne beaucoup d'éléments. Elle a vraiment chanté comme il fallait, comme ça.
Pourquoi Catherine Deneuve, Claude Lévesque, pourquoi l'avoir choisie, elle, pour venir habiter de sa présence certaines de vos œuvres? Puisqu'on parlait tout à l'heure du projet Nevers Let Love In, où on la trouvait également.
Bah, c'est une personne qui m'intrigue beaucoup, parce que bon, c'est une icône du cinéma, tout ça, mais moi je la vois pas que comme ça, quoi. Enfin, je trouve qu'elle a vraiment une implication dans le film cinéma, dans des films parfois un peu difficiles. Je l'adore dans le cinéma de Téchiné, tout ça. Enfin, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et que j'ai eu envie de rencontrer. Bon, c'est pas facile de rencontrer quelqu'un comme ça qui est très occupé et tout ça. Mais la façon, je pense qu'il y a une complicité entre nous qui se fait. Moi, je la connais pas très bien, bien sûr. Mais enfin, dans le langage, dans voilà, dans sans dire beaucoup de choses, quoi. Avec une sorte de voilà, de timidité. Enfin bon, je lui ai proposé d'ailleurs de chanter dans ce dispositif au Aube Bleue. Elle l'a fait vraiment volontairement et exactement comme il fallait. Donc ça voulait dire qu'il y avait quand même une certaine, enfin certain accord comme ça, certaines affinités comme ça sur le langage, pour que ce soit comme ça.
Lors de cette installation, on pouvait voir entre autres une multitude d'ampoules bleues brisées le long d'un mur, peint en bleu clair, mais aussi suspendues dans l'air, une fleur en néon bleu également.
C'était deux dispositifs distincts, hein, c'était deux choses différentes.
Mais il y a ce bleu, qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette couleur bleue qui est présente dans votre installation à l'Opéra également?
Bah, le bleu, c'est assez abyssal. Ça, c'est une couleur souvent qui a un espace, et souvent la vision qu'on a au moment de... On le dit, hein, moi je vais pas vérifier, c'est difficile. Au moment de partir, de disparaître, c'est une sorte de néant, de néant.
C'est effectivement ce que disaient les romantiques. Je crois la mort, vous y pensez souvent, vous?
Oh, non, après il y a la représentation de la mort qui est intéressante. Mais moi j'ai pas l'obsession de ça. De toute façon, il faut mourir.
Peut-être qu'il se passe quelque chose après la mort, Claude Lévesque. Qu'est-ce
non,
qui se passe?
Je crois pas à ça.
Ah ouais, très bien, rien du tout.
Non, je pense que non, rien, il se passe rien du tout. Non.
Poussière.
Voilà, poussière, c'est très, très bien comme ça.
C'est beau aussi.
Ashes to ashes.
Et que deviennent les œuvres?
Je sais pas, soit les œuvres existent, soit elles n'existent plus, quoi. Des fois, on n'est que de passage à tous les niveaux qui soient, quoi. Je pense que les gens vivent les choses, il y a un partage d'émotions qui se fait comme ça, de manière circonstanciée. Et puis après, ça peut complètement disparaître parce qu'on passe à autre chose. La vie, c'est comme ça.
Ça vous dérangerait pas que les vôtres disparaissent?
Non. Je suis pas conservateur du tout. Et voilà, une fois que je suis parti, hein, je suis pas là pour constater quoi que ce soit.
Merci infiniment Claude Lévesque d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que vos Saturnales seront exposées jusqu'à la fin de l'année prochaine aux opéras Bastille et Garnier dans le cadre des 350 ans de l'institution et des 30 ans de l'opéra Bastille. Ça vaut beaucoup plus qu'un coup d'œil et c'était l'occasion aussi de revenir sur votre œuvre passionnante. Tout de suite les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Pacing up and down this corridor, waiting for you to swing open the door. Is there something that I'm missing, or is it too much that I'm showing? I know some sign, find the way, let me aside, come in. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on.
sometimes just like the rest of us. There must be something deep within that I need to prove to you. Maybe I'm not what you expected to find. Yes, I'm all out on display, and what I've spent a life together. In a night I'll give away. Yes, in a night I'll give away. So I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. Yes, I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. You can see me come a mile away. You can see me come a mile away. Or you can see me come a mile away. 'Cause I've been pacing up and down this corridor, waiting for you to swing open the door. Is there something that I'm missing? Or is it too much that I'm showing? I know some say find the way, but me, I say come in. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. Yes, I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us.
Too much Loudoyon sur France Inter.